Au Maroc, où nous nous assumons, où nous nous consumons. Le chapitre commence par un constat. Mon arrivée à Rabat n'améliora pas ma situation. J'y trouvais une vie plus difficile et plus dure qu'à Alger. Là-bas, les migrants et migrantes parvenaient au moins à trouver des petits jobs sur des chantiers, des déménagements, du déchargement de marchandises ou d'autres boulots, mal rémunérés, souvent pas déclarés, mais qui avaient le mérite d'exister. Ce n'était pas le cas à Rabat où les migrants et migrantes n'étaient pas autorisés à travailler. Celles et ceux que l'on appelait les Africains et Africaines, comme si le Maroc n'était pas situé en Afrique, étaient partout déconsidérés. Même si, contrairement à ceux d'Alger, certains propriétaires acceptaient de louer leur maison à des migrants et migrantes subsahariens, la précarité restait aiguë. Trouver une maison ou un appartement à louer à Rabat n'est pas un problème, encore moins dans les quartiers populaires. Mais cette facilité a un prix. Pour le même appartement, les migrants et migrantes doivent payer plus cher que les Marocains et Marocaines. Les loyers élevés nous obligeaient à nous regrouper à plusieurs. Ainsi, il n'était pas rare de voir plus de 10 personnes se partager un appartement de deux chambres. Cette promiscuité imposée n'est pas sans conséquences. Les femmes et filles sont souvent victimes de violences sexuelles de la part de membres de leur propre communauté. Souvent aussi, les femmes qui ne peuvent pas payer leur part de loyer, se voient réduites au statut d'esclaves sexuelles. Les femmes isolées, et encore plus les mineures, sont ainsi singulièrement vulnérables, et quand par malheur elles tombent enceintes ou mènent leur grossesse à terme, elles deviennent encore plus dépendantes. Si l'on ajoute à cela les conditions d'hygiène déplorables, on comprend pourquoi les migrants et migrantes sont dangereusement exposés aux maladies sexuellement transmissibles. Par exemple, dans le nouvel appartement où je venais d'emménager, se trouvait une femme qui occupait une chambre seule avec sa fille. Elle partageait la même part de loyer que les autres occupants qui partageaient pourtant une chambre à 5 locataires. Mais cette faveur n'était pas gratuite. Elle devait aussi fournir des services sexuels à celui qui était considéré comme le chairman de l'appartement. Lorsqu'elle s'avisa de refuser, elle fut sommée de quitter la maison. J'ai encore aussi en mémoire la douleur d'Olga. Cette fille mineure qui vint me voir un jour avec un air très triste. Elle avait subi de tels sévices qu'elle avait trouvé le courage de me relater des choses qu'une fille africaine n'ose normalement jamais raconter à un homme. Papa Iman, aide-moi à trouver une place pour dormir. Là où je dors, les garçons me choquent beaucoup chaque nuit. Je n'y arrive plus. Au bout de quelques mois, cette fille, encore mineure, tomba enceinte. C'est là qu'on voit clairement que la migration est une épreuve encore plus difficile lorsqu'on est une femme, parce que la migration n'empêche pas la reconduction des rapports patriarcaux. Je continue le récit d'Emmanuel Mbolella. Une des colocataires de notre appartement avait le statut de demandeuse d'asile. Elle avait reçu un récépissé délivré par le bureau du Haut Commissariat aux réfugiés à Casablanca. Peu de temps après mon arrivée à Rabat, je lui demandai de m'y accompagner pour demander l'asile. Nous étions partis très tôt. À notre arrivée, une dizaine de personnes faisaient déjà la queue. Toutes furent reçues à la porte par un monsieur qui n'avait rien d'autre à nous proposer que de laisser nos noms et numéros de téléphone. La déception était grande, mais chacun et chacune se résigna et se contenta d'inscrire ses coordonnées sur un bout de papier que le monsieur remit au gardien. Nous rentrâmes bredouilles à Rabat, regrettant l'argent dépensé pour le transport. Je me sentais humilié par la façon plutôt méprisante dont on ne m'avait pas reçu, sans me remettre aucun document attestant de ma demande d'asile. Je restais donc à la merci d'une arrestation. Faut-il ajouter que je ne reçus jamais d'appel téléphonique? Donc évidemment, Emmanuel Bolella est face à une difficulté que rencontrent tous les migrants, c'est-à-dire la difficulté à obtenir un statut de demandeur d'asile. Les hauts commissariats aux réfugiés sont peu nombreux, difficiles d'accès et ne délivrent le précieux sésame qu'au compte-gouttes. Emmanuel raconte ensuite une occasion de passer en Espagne qui se finit de manière tragique. Donc il raconte que d'abord il réussit à obtenir de l'argent à son grand frère qui est toujours au Congo. Il avait évidemment beaucoup de mal à le convaincre, étant donné les images horribles vues à la télévision. Et pour lui, il valait mieux, pour son frère, donc il valait mieux rester au Maroc que mourir en mer. Finalement, il arrive à le convaincre en disant que de toute façon, il y a énormément d'arrestations au Maroc et que beaucoup de gens arrivaient sains et saufs en Espagne. Et finalement, ils se retrouvent dans une connexion, donc un convoi de migrants, avec un passeur, et se retrouvent coincés dans une maison où il y a plus de 20 personnes. Le propriétaire de la maison où les gens de la connexion sont coincés arrive et se met à crier, demande que chacun lui donne 25 dirhams, soit environ 2,50 €. Personne n'accepte étant donné que c'est trop cher et que personne ne se sent en sécurité dans sa maison. Le lendemain, le passeur trouva une autre maison, et là je cite, mais cette fois il refusa les Congolais, prétextant que c'était les va-et-vient de mon ami qui avaient attiré l'attention du propriétaire. 4 jours après, la télévision marocaine montrait les corps sans vie de nos amis maliens et guinéens, noyés dans le naufrage de leur patera. Horrifié par ces images, je me rappelais la longue discussion avec mon frère, mes hésitations au moment de remettre l'argent au charman et mon angoisse lorsque j'étais arrivé au 30 kilos. L'auteur raconte ensuite ses tentatives de repartir à Casablanca au bureau du Haut Commissariat aux réfugiés et il avait la ferme résolution de demander l'asile au Maroc afin de pouvoir y rester jusqu'à la normalisation de sa situation. Et néanmoins, le bureau du Haut Commissariat aux réfugiés, lorsqu'il arrive à Casablanca, est fermé. Et du coup, il est à la merci, comme de nombreux migrants et migrantes subsahariens, des rafles qu'organise fréquemment la police, notamment en janvier 2005. Ce qu'il raconte, voilà, à 4 h du matin, je cite, la police, la gendarmerie royale et les forces auxiliaires passèrent d'une maison à l'autre, raflant hommes, femmes, enfants, bébés, pour les refouler à Oujda, tout ceci par un froid glacial. Et donc il raconte quelques-unes des techniques qu'il utilise justement pour ne pas se faire repérer et pour ne pas être pris dans des rafles. Donc ensuite, après l'ouverture d'un bureau du Haut Commissariat aux réfugiés en mars 2005 à Rabat, il décide de s'y rendre et il est obligé pour cela de se camoufler, c'est-à-dire de s'habiller comme un étudiant bien avec un classeur et des stylos. Voilà. C'était le dress code obligatoire des migrants et des migrantes pour se rendre au centre-ville. Et finalement, il obtient un entretien avec un agent du Haut Commissariat aux réfugiés et il récupère un récépissé de demandeur d'asile, qui, aux yeux de la police marocaine, ne vaut rien, mais enfin, il est quand même très content. Finalement, il obtient une réponse négative. Un rejet de sa candidature et se plaint une nouvelle fois que, je cite, au Maroc, ni les migrants et migrantes sans papier, ni les personnes demandeuses d'asile, ni les réfugiés reconnus n'ont accès à une activité rémunérée. Même travailler au noir est impossible. Il n'y a pas beaucoup d'embauches et c'est encore pire pour qui n'a pas de papier. Et donc, ce qui fait que les migrants et migrantes sont dans une grande précarité économique. Je cite, ce chômage forcé a évidemment des conséquences graves pour l'ensemble des migrants et migrantes, pour les femmes en particulier, dont certaines doivent se prostituer pour survivre. À défaut de me procurer un job, j'avais espéré que mon récépissé me protégerait contre les arrestations et les refoulements. Je me trompais. Malgré l'installation du HCR à Rabat, la police poursuivait sans trêve sa chasse aux migrants et migrantes et arrêtait sans distinction les sans-papiers, les personnes demandeuses d'asile titulaires d'un récépissé et même les réfugiés statutaires. Malheureusement, ce n'était pas le seul problème auquel les migrants et migrantes étaient confrontés. Au Maroc, on leur refusait l'accès aux soins dans les hôpitaux, alléguant que les soignés pourraient provoquer un appel d'air pour les autres migrants et migrantes. Cette attitude a eu pour conséquence de nombreux décès. À titre d'exemple, l'auteur raconte le décès du petit Tony Mbombo, qui émut les migrants et migrantes, les ONG marocaines et européennes, et de nombreux autres acteurs, même des journalistes de la chaîne de télévision espagnole TVE. L'histoire, c'est que, après avoir été sérieusement malmené par un autre enfant marocain, Sidi Moussa, une ville périphérique de Rabat, il fut soigné par un dispensaire où il se contenta de poser un plâtre fermé sur ses blessures ouvertes. L'infection qui s'ensuivit ne fut pas soignée pendant près d'un mois. Et finalement, il est admis avec difficulté dans l'hôpital Avicenne de Rabat, sur pression d'une équipe de la télévision espagnole. Il devait subir une légère intervention chirurgicale qui est perpétuellement reportée d'heure en heure. Et finalement, vers 2 h du matin, on annonce à sa mère qu'il est mort et que finalement, personne n'a soigné. L'auteur poursuit son histoire. Je cite. Je viens d'évoquer quelques-uns des principaux problèmes auxquels devaient faire face les migrants et migrantes subsahariens au Maroc. Il me fallut un certain temps de réflexion sur l'impasse dans laquelle nous nous trouvions avant d'entrevoir un début de solution dans des propos entendus dans une conférence. Où nous nous assumons, où nous nous consumons. Pour nous, au Maroc, se consumer, c'était accepter l'injustice, les traitements dégradants, la misère, les souffrances, les perceptions toujours négatives des migrants et migrantes. Pour nous, au Maroc, s'assumer, c'était refuser les traitements discriminatoires et xénophobes dont nous étions l'objet de la part de la police, des gouvernements, de la presse. Appeler au respect des textes et conventions signées par les nations, démontrer que nous n'étions pas victimes des réseaux et des passeurs, mais plutôt de l'oppression exercée par des dirigeants africains que nous n'avions pas élus et qui n'avaient de compte à rendre à personne, et de l'indifférence, voire de la complicité des dirigeants européens. Expliquer que nous fuyions des conflits armés dont le seul but était le piège de nos ressources, ou tout simplement que nous étions partis à la recherche d'une vie meilleure. Comment mettre en œuvre un tel programme? Ce n'était pas facile à réaliser, étant donné que, malgré notre statut de demandeur d'asile, nous étions considérés comme clandestins et clandestines par les autorités marocaines. À l'époque, la grande majorité des personnes demandeuses d'asile étaient congolaises. Une des raisons en était l'instabilité politique et les conflits armés qui ravageaient le Congo à ce moment-là. Une autre était que c'était au Maroc que Feu Mobutu, sa famille et ses complices les plus proches s'étaient réfugiés. Les Congolais et Congolaises n'hésitaient pas à se présenter au bureau du Haut-Commissariat aux réfugiés pour demander l'asile alors que les ressortissants et ressortissantes des autres communautés vivaient dans la crainte de sortir, même pour se rendre au Haut-Commissariat aux réfugiés. C'est dans ce contexte que j'eus l'idée de créer une association de réfugiés et de personnes demandeuses d'asile congolaises, pensant que les autres communautés s'en inspireraient pour s'organiser à leur tour. C'est ce qui arriva, l'expérience de la création de l'association des réfugiés congolais au Maroc, ARCOM, fut plus tard suivie par les autres communautés qui lancèrent leurs propres associations de défense des droits et libertés de leurs compatriotes. Avant de mettre en place cette structure, il me sembla important de prendre contact avec certaines organisations non gouvernementales locales et internationales et avec des partis politiques. Je devais d'abord impérativement changer de look pour éviter de paraître en pauvre réfugié. Je me procurai donc un costume, une belle cravate, une bonne paire de chaussures. Je pensais aussi que cela m'éviterait d'être arrêté par la police ou d'être conduit par les huissiers de certaines institutions. Je rencontrai donc les représentants et représentantes de plusieurs institutions, notamment au bureau du Haut-Commissariat aux réfugiés. Je n'étais plus reçu comme un simple réfugié, mais comme le futur leader d'une organisation, porteur de propositions pour l'amélioration de la situation de personnes réfugiées et demandeuses d'asile. J'eus également des rendez-vous fructueux avec les responsables de quelques partis politiques marocains. Toutes mes rencontres ne furent pas aussi heureuses. Par exemple, lorsque le secrétaire national d'un certain parti me signifia qu'il n'accepterait de discuter avec moi que lorsque j'aurais une carte de séjour. Certaines organisations non gouvernementales me claquèrent la porte au nez à cause de mon statut de réfugié, alors que ces mêmes organisations ne cessaient de proclamer haut et fort, aux tribunes des conférences et rencontres internationales sur la thématique des migrations, qu'elles étaient très préoccupées par la cause des réfugiés et migrants et migrantes au Maroc. C'est là qu'on voit un peu l'hypocrisie des institutions internationales. Je poursuis la citation. J'appris entre autres qu'au Maroc, il y a trois choses auxquelles on ne doit pas toucher. Le roi, la nation et la religion. De plus, je savais maintenant avec qui se coopérer. Donc ensuite, il raconte l'histoire de la formation de cette organisation, même si évidemment, on ne pourra pas s'empêcher, en tant que libertaire, de trouver l'organisation un petit peu trop pyramidale. Mais enfin voilà. Je cite par exemple, il s'agissait donc d'une réunion, donc la première réunion hein, fondatrice de son association, ayant pour but la création d'une association apolitique, dans le sens que ce ne serait pas un parti politique, mais plutôt une organisation ayant pour objectif la défense de nos droits et libertés. J'étais l'initiateur, mais tout devait être décidé de manière démocratique. Nous devions procéder par vote à main levée pour choisir les dirigeants et dirigeantes de cette jeune structure. Voilà, donc du coup, il se dote d'une structure avec un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois conseillers. Voilà, donc une structure assez classique et assez pyramidale. Voilà, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même fondé deux équipes, une pour les femmes et une pour les hommes, qui sont destinées à l'écoute, ce qui est important. Alors, il a tendance à trouver que, je cite, les églises jouent un grand rôle dans l'encadrement moral et spirituel des migrants et migrantes. On y prêche quotidiennement contre la prostitution, la délinquance et le vol, et pour l'amour fraternel et la solidarité entre les migrants et migrantes qui doivent garder le moral envers et contre les souffrances endurées. Peut-être qu'on pourrait, au contraire, voir que les églises jouent quand même un rôle de pacificateur social et font une critique exclusivement moralisatrice de la prostitution, de la délinquance et du viol, et pas du tout une critique politique. Voilà. Donc, bon, peut-être sur là-dessus, on pourra être un peu en désaccord avec l'auteur. L'auteur raconte ensuite la réaction qui a été adoptée collectivement face à de nouvelles rafles. Je cite. Il fut alors proposé d'organiser un sit-in devant le bureau du Haut-Commissariat aux réfugiés, pour dénoncer son silence coupable et le pousser à agir en faveur des personnes auxquelles il devait protection. Quant à moi, je vis là une bonne occasion de protester non seulement contre le comportement du Haut-Commissariat aux réfugiés, mais aussi contre la police marocaine. Le bureau du Haut-Commissariat aux réfugiés était situé sur l'une des principales avenues de Rabat, où circulaient régulièrement les pompes du ministère de l'Intérieur et d'autres responsables politiques. Ce serait une première au Maroc, une manifestation de migrants et migrantes pour protester contre le refoulement de leurs camarades et dénoncer en conséquence l'atteinte à leurs droits fondamentaux. Un comité de mobilisation et de sensibilisation fut mis en place. Le lendemain matin, nous étions devant le bureau du Haut-Commissariat aux réfugiés. Quelques demandeurs d'asile anglophones venus pour l'enregistrement étaient arrivés avant nous, mais lorsqu'ils nous virent sortir notre acte et après qu'on leur eut expliqué pourquoi nous étions là, ils s'en allèrent. Ils avaient peur que la police intervienne et les arrête en même temps que nous. Nous restâmes donc entre Africains, Africaines subsahariennes, hormis un réfugié algérien qui nous rejoignit. Une quarantaine de personnes demandeuses d'asile, courageuses, avaient déjà répondu à notre appel, ce qui était déjà beaucoup, dans un contexte où tout le monde craignait de se faire arrêter et refouler. Ce jour-là, j'ai vraiment admiré la détermination dont firent preuve les manifestants et manifestantes. Ils et elles brandissaient des écriteaux sur lesquels on pouvait lire « Non au refoulement discriminatoire et injuste, nous réclamons le retour immédiat et inconditionnel de nos camarades à Rabat, leur lieu de résidence. » Ce fut d'abord le silence radio du côté du Haut-Commissariat aux réfugiés. Cependant, au bout d'un peu plus d'une heure, débarqua une journaliste espagnole. La responsable du bureau, finalement, les reçoit et s'énerve. Pourquoi êtes-vous venu manifester ici? Vous manifestez contre nous, contre les autorités marocaines. Vous ne savez pas qu'avant chaque période de Ramadan, les autorités marocaines ordonnent une rafle, que c'est leur tradition? Très rapidement, une camarade de l'auteur lui répond. Après avoir passé des moments difficiles dans nos pays, on vient se réfugier ici et vous nous parlez de tradition de rafle? Si c'est de cette manière que vous êtes censé protéger les réfugiés, je suis désolé, madame. L'auteur poursuit. Je compris qu'elle avait la même considération pour les migrants et migrantes qu'une certaine presse marocaine qui les présente comme des sauterelles venues envahir le Maroc, comme des gens sans aucune valeur. Il poursuit. Durant cette entrevue, je compris que le Haut-Commissariat aux réfugiés se trouvait dans une position un peu délicate par rapport aux autorités marocaines, qu'il ne pouvait pas se permettre de contrarier ouvertement. Ainsi, il n'avait pas assez de pouvoir pour se rendre à Oujda et ramener les réfugiés. C'est pourquoi nous devions nous tourner vers les ONG. Finalement, ceux qui avaient été raflés reviennent à Rabat. Je cite, toutes étaient très affaiblies, quelques-uns, quelques-unes étaient même sérieusement malades. Certaines femmes étaient très traumatisées de ce qu'elles avaient subi à Oujda dans la forêt. Viols, coups et agressions psychologiques. Il tire alors la conclusion de cette expérience. Pour la première fois au Maroc, des migrants et migrantes avaient démontré leur capacité à s'organiser et à se défendre contre une injustice perpétrée par les autorités. Sans ressources et sans appui, grâce à notre solidarité et à la volonté de défendre nos droits, nous avions pu mettre en commun nos énergies, partager nos idées et prouver ce dont nous étions capables. Cela nous encouragea à faire encore plus. Il fait alors un commentaire intéressant sur le Haut-Commissariat aux réfugiés. Il faut ajouter à cela que le Haut Commissariat aux réfugiés, au Maroc, est coincé entre le marteau et l'enclume. D'une part, il doit assumer sa mission de protection des réfugiés, et d'autre part, il voit ses capacités d'action réduites à peu de choses par la politique d'externalisation de la gestion des frontières de l'Union européenne, dont les principaux États membres sont aussi ses plus gros bailleurs de fonds. Les migrants et migrantes deviennent ainsi les enjeux secondaires d'affrontements entre intérêts économiques et politiques qui les dépassent de très loin, mais dont les conséquences leur retombent brutalement dessus. Fin de citation. On pourrait dire d'ailleurs que le Haut Commissariat aux réfugiés est effectivement coincé entre le marteau et l'enclume, mais d'autre part qu'il joue une double politique avec une façade humanitaire d'un côté et d'autre part une mission réelle de gestion des réfugiés de manière à ce que il en arrive un minimum au sein des frontières de l'Union européenne. L'auteur se penche alors sur des événements qui ont eu un certain retentissement, c'est-à-dire les événements de 2005 à Ceuta et Melilla, donc qui sont les deux enclaves espagnoles situées au nord du Maroc. Je cite: Les lieux où se matérialisent le plus cruellement ces conséquences étaient les abords des deux enclaves espagnoles au Maroc, Ceuta et Melilla. Gourougou est un petit village montagneux situé à la frontière entre le Maroc et Melilla. En septembre et octobre 2005, se produisit ce que l'on a appelé le phénomène gourougou, femmes et enfants. Les femmes migrantes qui avaient des enfants ou étaient enceintes réussissaient à entrer en Espagne à partir de gourougou. Beaucoup de migrantes, y compris les demandeuses d'asile qui habitaient les grandes villes, se rendirent à gourougou. Des centaines de femmes et d'enfants entrèrent ainsi en Espagne à ce moment-là. Mais nombreuses aussi furent celles qui, après avoir atteint le territoire espagnol, se virent arrêtées et refoulées vers le territoire mexicain. Et effectivement, de nombreuses personnes qui avaient tenté de rentrer sur les enclaves espagnoles sont finalement refoulées brutalement par la Guardia Civil. Je cite: Nous recevions de plus en plus d'informations qui faisaient état d'arrestations de migrants et migrantes, dont des femmes et des enfants, de refoulements en plein désert du Sahara et même de morts par balles de quelques-uns parmi ceux qui avaient tenté de forcer les barrières à Ceuta et Melilla. Nous devions absolument hausser le ton. Il y avait le feu en la demeure. Nous décidâmes d'organiser une conférence débat dont les objectifs étaient de réunir des membres de différentes communautés de migrants et migrantes et d'analyser ensemble la situation, d'échanger les informations et de coordonner nos efforts afin de reprendre contact avec les refoulés et enfin de sensibiliser l'opinion internationale sur le drame que nous étions en train de vivre. Il y avait eu mort d'hommes et beaucoup de gens étaient grièvement blessés, d'autres arrêtés. Il recueille à ce moment-là le témoignage de quelqu'un qui a vécu ces événements. Comme on ne savait plus quoi faire à cause de la police marocaine qui nous avait encerclés la nuit, presque tout le monde s'est dirigé vers le grillage pour tenter de passer en force et d'entrer en Espagne. La police marocaine et la Guardia Civile espagnole sont intervenues, chacune de son côté, en tirant à bout portant. C'était la guerre dans la forêt et j'ai vu des gens atteints par les balles tomber sous mon nez. Et jusque-là, on ne connaît pas encore le nombre exact de morts. L'auteur commente. Ces événements dramatiques, que je n'oublierai jamais, ont fait plus de morts que ce que la presse et les autorités marocaines et espagnoles en ont dit en parlant de 12 candidats tués. Tués par qui? On parlait de morts et de nombreuses arrestations et refoulements vers Oujda. Le lendemain, quelqu'un appelle l'auteur en lui disant: Emmanuel, la situation est catastrophique. C'est un désastre, il y a plus de 2000 migrants dans le désert, beaucoup sont morts et d'autres sont portés disparus. La police vient de tabasser devant nous et devant les caméras des télévisions internationales deux migrants qui refusaient d'entrer dans le bus. Donc tout cela provoque une crise dans l'organisation dont l'auteur est responsable. Et du coup, il fait son speech à la conférence débat prévue. Ce fut un moment fort car je pus dénoncer publiquement non seulement la politique du Maroc à l'égard des migrants et migrantes, mais aussi celle de l'Union européenne. Cette dernière, en effet, délègue la gestion de ses frontières extérieures aux pays limitrophes en contrepartie d'aide matérielle et financière. Elle est ainsi co-responsable des arrestations et des refoulements dans le désert des migrants d'origine subsaharienne. Fallait-il soigner le mal ou ses symptômes? L'immigration africaine, qu'il déplore aujourd'hui, n'est que la conséquence d'une situation longuement occultée. Cette situation, c'est le pillage des ressources africaines par les multinationales, C'est le soutien inconditionnel et aveugle de l'Europe aux dirigeants africains qui excellent dans la dictature et la mauvaise gouvernance. C'est aussi la conséquence des plans d'ajustement structurel que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international imposent aux pays africains sans se soucier de leur impact sur les peuples. Il faudra ajouter aussi l'impact de la crise du capitalisme et aussi le fait que ces pays n'ont pas réussi leur modernisation de rattrapage de par la situation de crise et de par le fait que le niveau de productivité et d'industrialisation des pays ex-anciennement colonisateurs était trop avancé pour pouvoir les rattraper. Voilà pour compléter le tableau que l'auteur fait. Bon, l'auteur, là, dit quelque chose qui me semble un peu, disons, discutable. Tous et toutes avaient un bon niveau d'études et des capacités certaines. Donc là, il parle des migrants. Les migrants et migrantes ne sont pas des gens sans valeur, sans instruction, sans culture, comme on le pense trop souvent. Certains et certaines ont des qualifications et des talents que les pouvoirs dictatoriaux de leur pays ne leur ont pas permis de mettre en valeur. Donc là, c'est peut-être un peu risqué, parce que ça risque de, même si c'est pas ce qu'il fait en réalité, mais ça peut laisser penser qu'il y a des bons migrants, diplômés et tout ça, et des mauvais migrants qui sont illettrés, des pauvres hères, et qui est un peu le discours malheureusement qu'on entend ici en Europe. L'auteur revient alors à la situation au Maroc. Les enfants des réfugiés et des migrants et migrantes, dont les familles ont fui les guerres, les persécutions, les désastres économiques, et qui se retrouvent au Maroc, ne sont pas admis dans les écoles publiques parce que leurs parents n'ont pas de papier. Et cela malgré le statut de réfugié ou le récépissé de demande d'asile de certains parents. Aucun enfant n'a jamais demandé à venir au monde ni obligé ses parents à se retrouver sur les chemins de l'exil. Ils sont pourtant privés de leur droit fondamental à l'instruction, et cela dans un pays qui se trouve à quelques kilomètres seulement de l'Europe où le respect des droits de l'enfant est au cœur de la vie sociale. Alors là, on peut peut-être un peu tiquer dans le sens où ça procède un peu d'une idéalisation des droits de l'enfant, puisque on sait que malgré tout, les violences subies par les enfants en Europe, y compris, sont graves, sont nombreuses. Les cas de viol, notamment, y compris par les proches, et pas seulement par les pédophiles extérieurs à la famille et aux proches. Et tout ça, c'est bien documenté dans l'ouvrage La domination adulte d'Yves Bonnardel. Enfin voilà, on voit de manière générale que l'auteur idéalise un petit peu l'Europe, même si il l'idéalisera beaucoup, beaucoup moins une fois qu'il y sera. Donc je poursuis. Cette situation inacceptable nous pousse à imaginer un projet de centre où les enfants pourraient venir suivre quelques leçons. Et donc du coup, il raconte ensuite comment est-ce qu'ils vont réussir à créer ce centre. Ils vont même réussir à obtenir que le Haut Commissariat aux réfugiés prenne en charge régulièrement le loyer du centre et les frais d'achat du matériel. Alors il raconte aussi l'hostilité des étudiants et étudiantes subsahariennes au Maroc. Certains et certaines étudiants, surtout ceux et celles dont les parents occupaient de hauts postes de responsabilité au pays, méprisaient les migrants et migrantes, prétendant que nous faisions honte à nos pays en venant au Maroc. Au contraire, certains migrants et migrantes pensaient que les étudiants et étudiantes avaient peut-être honte car la présence d'exilés au Maroc révélait la manière dont leurs parents dirigeaient le pays. Bon, même si évidemment la situation dans les pays d'Afrique n'est pas due que aux dirigeants, mais aussi tout simplement à la structure inégalitaire du capitalisme d'une part et à la situation de crise du capitalisme d'autre part, c'est-à-dire en fait au capitalisme tout court. Voilà, il raconte tout de même qu'ils vont réussir à tisser des liens avec les étudiants. Ils vont même créer une chorale commune, voilà, malgré toutes les différences qui existent. Alors ensuite, il raconte une conférence assez cocasse. Voilà, je cite. Je devais intervenir sur le thème un nouvel ordre politique au Congo. Seul remède efficace pour lutter contre la migration involontaire et celle cl dite clandestine. Il y avait quatre intervenants, dont un ancien médecin de la famille Mobutu, un journaliste, la secrétaire de l'ambassade et moi-même. Mon intervention mit mal à l'aise les membres du corps diplomatique et les anciens dignitaires de Mobutu. Je démontrais les causes de notre migration, c'est-à-dire la violation des droits humains et la pauvreté générée par la dictature et la mauvaise gouvernance qui lui avait succédé. Combien d'aides au développement un pays comme le nôtre a-t-il reçu? Le seul résultat de ces aides est le développement du sous-développement. Alors là, encore une fois, peut-être que je me permets de faire une parenthèse, mais l'auteur surestime la responsabilité des dictatures, qui est réelle et qui est atroce, mais il exonère un peu trop disons, l'aspect systémique, c'est-à-dire le capitalisme, l'aspect systémique du problème. Je reviens à sa citation. Pour moi, donner la priorité au développement, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il faut commencer par remettre la parole à la population qui se choisira librement les dirigeants sur qui elle peut exercer un contrôle. Ce qui permettra une bonne gestion de la chose publique, laquelle conduira à son tour au développement durable. Voilà. Alors évidemment, ça provoque la gêne des autres, des intervenants, mais bon, c'est un discours qui reste un peu idéaliste, pensant que... Bon, en fait, globalement, ce qu'il décrit, c'est la situation européenne, et la situation européenne est loin d'être parfaite. Ça, c'est clair. Même si, évidemment, elle est quand même meilleure que le Congo. Bon, cependant, en décembre 2006, la situation des migrants et migrantes ne s'améliorait pas, loin de là. Et il y avait y a une poursuite, en fait, des rafles au cours de fin 2006. Voilà. Et ils sont raflés. Et emmené à la frontière, à Oujda, et on avait même. Et la police algérienne s'était ensuite chargée de les reconduire à la frontière algérienne avec le Mali. Voilà, et évidemment, ça avait eu des conséquences catastrophiques. Ici, des viols de femmes et de filles mineures, des agressions, des gens perdus dans le désert. Voilà, il fait mention de nombreux cas de vols et de viols. Donc je cite, les autorités marocaines. Échaudé par la vague de protestations contre la rafle et le refoulement de l'automne 2005, avait cette fois-ci profité de la période de Noël et du départ en vacances des militants associatifs et des représentants des organismes internationaux. Mais elles avaient négligé une variable dans leur calcul, la dynamique des associations de réfugiés subsahariens. En quelques heures, nous avions remué ciel et terre. Nous avions prévenu tout le monde, nous avions évidemment aussi lancé le message sur Internet. L'information s'était propagée comme un feu de brousse. Par écrit, par téléphone, les réactions condamnant le refoulement arrivaient de partout. Le chef de mission du Haut Commissariat aux réfugiés dut écourter ses vacances pour revenir au Maroc. Ce fut la première fois qu'il condamna publiquement, via l'AFP, les refoulements de réfugiés et de demandeurs d'asile. Je faisais partie de la délégation qui se rendit au siège de l'Union européenne où nous fûmes reçus par le responsable en charge de la migration et de l'asile. Nous avons appris de certaines sources que l'UE aurait fait pression sur le Maroc afin qu'il dissuade les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile de venir en Europe, attaqua un membre de la délégation. Je pris la parole à mon tour et insista sur les responsabilités de l'Europe. Face à la prolifération de conflits armés en Afrique, alors qu'il n'y a pas de production d'armes dans les pays en guerre, face au pillage des ressources par les multinationales, la solution de la question des migrants, si elle existe, n'est pas de financer le Maroc pour refouler des êtres humains dans le désert, comme on jetterait des sacs de tomates pourries. Je demandais le retour de tous les migrants et migrantes, et pas seulement celui des personnes sous mandat du Haut Commissariat aux réfugiés. Car selon moi, il n'y a pas à distinguer réfugiés et migrants et migrantes, qui sont les uns, comme les autres, victimes des mêmes atteintes à leurs droits fondamentaux. Donc ça, c'est important, effectivement, de ne pas faire cette distinction entre réfugiés et migrants, qui sont tous deux des victimes du capitalisme mondial, et même si certains sont plus victimes de son aspect politique, c'est les réfugiés, et d'autres plutôt victimes de son aspect économique, c'est-à-dire les migrants et migrantes. Et il livre ensuite le témoignage d'une mère de juillet 2007 qui dit: Quand je vois mes filles prostituées pour 10 dirhams, donc 1 euro, ça me fait mal. Et elle dit: Tu ne vas peut-être pas le croire, mais cette nuit j'ai dû coucher avec un kidam pour pouvoir acheter ce kilo de smida pour le préparer à ma fillette. On voit quand même des conditions très dures où la vente de la force de travail des migrants et migrantes est très très faible. Alors ensuite, il participe à une espèce de colloque où il prononce le discours suivant. Au Maroc, il est très difficile pour les réfugiés subsahariens de réaliser des micro-projets générateurs de revenus, Dans la mesure où les réfugiés n'ont pas de carte de séjour et vivent dans la clandestinité du fait que les papiers délivrés par le Haut Commissariat aux réfugiés ne sont pas reconnus par les administrations marocaines. C'est même la raison pour laquelle les réfugiés et les demandeurs d'asile sont arrêtés et refoulés. Ensuite, le micro-projet ne nécessite pas seulement un financement, mais se pose également le problème de la commercialisation. Si nous produisons des biens et ou des services, nous devons aussi être en mesure de les vendre. Mais dans le contexte actuel, quel Marocain viendra acheter un produit vendu par un réfugié subsaharien? Et nous-mêmes, les réfugiés, nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Comment, dans ces conditions, peut-on mettre en place des micro-projets? Pour ce qui est de la réinstallation, donc qui est proposée par le commissariat aux réfugiés, nous pensons que la situation au Maroc a rendu tout le monde vulnérable. Lorsqu'un réfugié n'a pas de carte de séjour et donc aucune possibilité d'accès au marché du travail, lorsqu'il vit dans la crainte et court le risque d'être arrêté et refoulé dans le désert à tout moment, il devient vulnérable. Le souci de tout être humain, c'est de pouvoir travailler, d'être indépendant, de ne pas mener sa vie la main tendue. Alors là, précisons le souci de tout être humain, c'est-à-dire plutôt la contrainte de tout être humain au sein du capitalisme. Mais effectivement, dans le capitalisme, c'est une nécessité quasi vitale. Et effectivement, les migrants n'ont même pas cette possibilité-là, ce qui est terrible, quoi. C'est-à-dire de ne pas avoir de travail dans une société de travail. Je ferme la parenthèse. Nous partageons tous ce souci, et chaque jour, nous nous évertuons à trouver un travail, mais malheureusement, faute de carte de séjour, nous sommes bloqués. Donc, l'intégration des réfugiés au Maroc reste impossible, et nous vous demandons de trouver une solution durable, qui est la réinstallation de tous les réfugiés. Il raconte ensuite, pour faire pression sur le Maroc et le Haut Commissariat aux réfugiés, voilà l'organisation d'un sit-in. La tension montait. Le Maroc se préparait aux festivités de commémoration de l'indépendance. Des invités de plusieurs pays étaient attendus. Toute manifestation était interdite. La police ne tarda pas à revenir, nous pressant de mettre fin au sit-in et de vider les lieux. Le quatrième jour de sit-in, la police nous somma de dégager les lieux car la fête nationale commençait le lendemain. Un réfugié, ancien militaire, qui participait lui aussi à l'action, nous demanda alors de parler un peu à l'écart avec les représentants des associations. Il tenait à nous avertir que selon lui, la situation était grave et qu'il était préférable de quitter l'endroit, sinon il y aurait mort d'homme. Il ne s'était pas trompé. Au bout d'une dizaine de minutes, nous fûmes encerclés par des policiers armés jusqu'aux dents. Mais aucune réfugiée n'était disposée à partir. Les organisations marocaines et européennes des droits humains étaient présentes. Les manifestants pensaient que c'était une garantie suffisante de sécurité. J'acceptais de m'adresser aux réfugiés, mais je me heurtais à l'opposition des femmes qui ne voulaient plus m'écouter. Pendant que nous discutions, un fonctionnaire du Haut Commissaire aux réfugiés fit interruption avec des tracts qu'il jeta dans la rue et devant le bureau. À la lecture de ce tract, je compris que le Haut Commissariat aux réfugiés, pressentant le danger d'une intervention policière et de ses conséquences, voulait se dégager de sa responsabilité. Les forces de l'ordre maintenaient l'encerclement tandis que leur chef allait et venait, passait des coups de fil et se montrait de plus en plus nerveux. Les services de sécurité les avaient rejoints. Finalement, ils s'en vont dans une église évangélique, sur promesse des autorités marocaines qu'une solution sera trouvée à leur situation. En réalité, comme le dit Emmanuel Mbolela, les représentants du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies s'étaient seulement engagés à recevoir les réfugiés individuellement et à leur donner de l'argent pour faire face à leurs besoins les plus urgents, une solution à très court terme, mais qui n'en était pas une. Je sais que certains, et surtout certaines, vécurent cette fin de mouvement comme un échec. Ce n'était pas faux, mais nous avions cependant évité le pire. Ce qui ne fut pas toujours le cas par la suite. Un an après mon départ du Maroc, des réfugiés initièrent un mouvement analogue et cette fois, la police intervint. Ce fut catastrophique. Des femmes et des hommes furent tabassés, d'autres poignardés. Et finalement, l'auteur est accepté dans un programme de réinstallation en Hollande où il y a 6 personnes. Voilà, donc il y a des milliers et des milliers de réfugiés et les programmes ne concernent que 6 personnes. Donc on voit vraiment que les migrants sont accueillis au compte-gouttes. Et on peut même penser d'ailleurs que l'auteur a été accueilli notamment par le fait qu'il était un peu le leader d'un mouvement relativement gênant pour les autorités marocaines et le Haut Commissariat aux réfugiés. Finalement, il termine quand même sur une note d'espoir relatif, qui montre, je pense, que la lutte paye. Je cite, depuis 2013, le Maroc a procédé à la régularisation des sans-papiers. Plus de 8 000 migrants et migrantes et réfugiés ont obtenu une carte de séjour, et cela même si l'accès au marché du travail et aux services de base pose encore problème. C'est la fin de ce long chapitre.
Pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble. Soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif, je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyen du monde, partisan. Il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices. Plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour eux. Combien au chaud la victoire était fêtée au champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne.
Citoyen du monde,
partisan d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo, citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières.